RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le rugby est une histoire de famille, une grande famille qui régulièrement se déchire, on en parle régulièrement entre les poteaux, mais qui parfois aussi sait se retrouver sur le terrain. Ce week-end, au moment où les frères Retière, joueurs du Stade Toulousain, affrontaient Clermont, l'équipe dont leur papa Didier, directeur du développement sportif, Laure Sansus et Pauline Bourdon, joueuse du 15 de France féminin, battaient elles l'Afrique du Sud, Pauline et Laure, dont on a appris la semaine dernière qu'elles allaient se marier. Tout cela sans oublier les stars du 15 de France, les Ntamack et autres penauds, qui régalent leur paternel et qui sont aussi les premiers supporters de leur fiston, qui ont connu eux aussi les honneurs du maillot bleu bien avant eux. De bien belles histoires de famille dont les poteaux s'emparent aujourd'hui avec nos invités, et Didier Retière qui sera avec nous dans un instant. Lucas a donc été battu par ses fistons, ou plutôt par l'un de ses fistons, Arthur, qui était sur le terrain ce week-end. Et nous aurons également tout à l'heure Thomas Lièvremont, membre de l'une des familles les plus éminentes du rugby français. 7 frères et une sœur qui ont tous tâté du ballon ovale. Le papa des poteaux, ou le papy des poteaux, vous le connaissez tous, c'est évidemment...
Ah oui, ouais, le, papy, ouais.
Le petit sourire témoigne.
Tu as raison, non, mais j'ai l'âge d'un papy. Hein.
Ben oui, exactement.
Papy n'a pas d'enfant encore, mais...
Bientôt. Bientôt. Papy fait de la résistance. Ouais, ouais. À ses côtés, son fils illégitime, j'ai nommé Wilfried Templier.
Salut les papys.
Comment ça les papys?
T'inquiète pas, tu vas y arriver vite aussi toi.
Mais oui, on est tous le vieux de Quinquin de toute façon, oui. Les gars.
Et puis notre petit cousin de Midi Olympique, Léo Faure, qui est avec nous. Salut Léo.
Salut les gars. Et Denis, c'est un papy en pleine forme quand même. Hein.
Ouais, il est pas mal pour son âge. Pour ses 80 balais, il est quand même
pas mal. En pleine gentillesse. Merci Léo.
Méfie-toi de la suite.
Messieurs, je le disais, le rugby est donc une histoire de famille. La preuve, on l'écoute.
J'étais dans ma voiture, j'écoutais le poste et quand ils ont donné la liste pour le tournoi 98, on était sélectionnés tous les deux.
Voilà, c'est parti. C'est
vraiment pour un essai superbe de l'équipe de France.
La grosse qualité, c'est qu'il a toujours été compétiteur.
C'est en tout un honneur et c'est une fierté aussi d'avoir un père comme ça. Et ça donne toujours envie d'atteindre ce qu'il a fait lui et voir le dépasser.
Bon essai, Romain Ntamack.
Quelle action, Wilfried.
Quelle action des Français.
On a une somme de filiation et de fratrie qui est assez particulière.
Pas mal de souvenirs d'enfance aussi, mais aussi avec Théo sur le terrain et Théo Ntamack.
Ça rassure puisqu'on a des automatismes. On a travaillé ça dans le jardin quand on était petit. Et avant le match, on a dit le mot petit frère. Tout le monde avait un petit frère à côté.
On oublie que les sportifs ont un cœur d'homme. On dit souvent il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a le cœur.
Oui. Ah, mais ça, c'est la classique de Denis Charvet, évidemment.
Ouais, elle te suit, celle-ci. Hein.
C'est notre producteur bien-aimé, là, je l'embrasse. Foiré.
Celle-là, elle te suivra jusqu'à la fin de tes jours.
Tu sais quoi, c'est vrai.
Ouais.
Plus je l'écoute, plus je me dis que c'est pas con.
Tu dis qu'il y a un fond de vérité.
Non, voilà, plus je me dis que c'est quand même un truc de philosophe vraiment calé.
Celui-là de philosophe. Le dernier épisode donc, de ces multiples sagas familiales a donc eu lieu ce week-end à Toulouse, où le stade a affronté Clermont, les Toulousains qui comptent dans leur rang, Wilfried, un paquet de fils d'eux, c'est une véritable tradition toulousaine. Hein.
Ah oui, de grands noms qui traversent les générations et les décennies à Toulouse, effectivement, de Jean-Claude Scrella à David, d'Éric Bonneval à Arthur, d'Emile Ntamack à Romain, de Trevor Brennan à Josh. Bah, la filiation, c'est quand même pas un vain mot chez les Rouges et Noirs. Mais là où les Toulousains font fort, c'est qu'ils arrivent aussi à développer des fratries. Parce que si on reste dans une époque contemporaine, personne n'a oublié, pas toi Denis, les frères Portolan, deux massifs piliers, plusieurs fois champions de France dans les années 80, ni même les frères Carbonneau, Philippe et Olivier, sacrés eux dans les années 90. Entre-temps, on a connu les frères Maca, l'autobus du Capitole, Isitolo, son frangin à la touffe de cheveux célèbre, Fino, les frères Bézi aussi, Nicolas et Sébastien. Mais là, l'épidémie, elle s'est accélérée ces dernières années. Après Émile et Francis, la famille Ntamack nous a refait le coup des frangins, Romain ayant été rejoint par Théo cette année. En 2016, il y a eu les Tolofoua, Christopher et c'est les Vasio qui se retrouveront l'an prochain à Toulon. Et puis, les marchands, Julien et Guillaume, les jumeaux Arnold, carrément, on monte d'un cran, il y a des jumeaux aussi, les Australiens,
il y en a un
qui est reparti. Ouais. Enfin, depuis 15 jours, les Retière, Arthur et Edgar. Bah, ça rend assez fier le manager Hugo Mola, écoutez, qui n'y voit que du positif.
Il y a des fratries dans d'autres endroits, mais à ce point-là, on a eu les marchands, on a eu les Arnold, on a prêté le demi-frère d'Arthur à Colomiers, donc on avait les Bonneval, on a les Ntamack, on a les Brennan, encore un qui va arriver dans pas très très longtemps. Enfin, on a une somme de filiation et de fratrie qui est assez particulière. Mais c'est vrai que quelque part chez nous, c'est à la fois cultivé et c'est un petit peu aussi le hasard de la vie, puisque pour ce qui est de la dernière fratrie, les deux, Arthur et Edgar Retière, c'est quand même une histoire assez incroyable, improbable, et ça amène une forme de, à la fois d'exigence, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus exigeant qu'un frère avec son frère d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas cet aspect familial demande beaucoup d'exigence entre eux, mais ça amène aussi un sentiment familial renforcé, et de fait, on a un mode de fonctionnement qui parfois peut être un peu déroutant, parce que on fonctionne vraiment comme une grande fratrie, ou en tout cas comme une grande famille, donc c'est vrai que ça a quand même beaucoup de points positifs.
Des points positifs, et comme on ne pense qu'aux pères et aux frères dans cette société patriarcale, comme dirait l'autre, on félicitera messieurs aussi et surtout les mamans de tous ces champions.
Exactement, tu as bien fait de le signaler. Surtout ne pas oublier les mamans. Si beaucoup de joueurs actuels sont des fils d'anciens joueurs du stade, il y a donc aussi des grèves, tu viens d'en parler, mon cher Wilfried, avec notamment les frères Retière. Edgar arrivé au club il y a quelques années, et son grand frère Arthur qui lui a débarqué cette saison en provenance de La Rochelle, deux stadistes formés au rugby en Bourgogne, et dont la passion de l'Ovalie leur a été transmise par Didier, le papa, ancien DTN du rugby français, ancien adjoint de Marc Lèvremont en équipe de France, et actuel directeur du développement sportif de Clermont, Didier, papa fier, qui est avec nous entre les poteaux. Bonjour Didier Retière.
Bonjour.
Bonjour.
Bon Didier.
Didier qu'on peut appeler Jean-Pierre Marielle, tu vois, la voix qu'il a. Je le taquine toujours, chaque fois que je le croise, il s'appelle Jean-Pierre.
Le comique de répétition avec toi.
Non, ça, mais ça. J'adore. Non, mais c'est vrai qu'il a une voix incroyable. On va l'écouter d'ailleurs.
C'est pas le sujet.
Bon Didier, comment...
Si, c'est le sujet justement.
Comment se sont passées les retrouvailles ce week-end? Alors il n'y avait que Arthur face à Clermont. Edgar était en réserve de la République. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un peu de tension avant le match? Est-ce que vous êtes appelé avec les fistons? Comment vous avez géré le truc?
Non, en fait, j'étais chez eux, j'ai profité du déplacement pour donc vendredi soir retrouver mes deux fils, et puis j'y suis resté jusqu'à dimanche soir.
D'accord.
Donc pas de tension du tout, hein, on est...
Vous avez fait une belle soirée vendredi soir, vous leur avez payé un coup à boire, vous les avez amenés au bout de la nuit pour essayer de les amoindrir pour jouer face à Clermont.
Ça n'a pas trop marché non plus. Hein.
Non, ça n'a pas du tout marché, donc on est resté bien tranquillement à la maison, et puis on s'est séparés à 3h de l'après-midi pour retrouver chacun notre équipe, et puis on s'est retrouvé après le match, voilà.
Mais avec une bière, une bonne petite bière.
Après le match, oui, peut-être.
Après le match, évidemment. Ouais. Une mousse, quand même.
Mais attends, ouais. C'est des gens de Bourgogne, c'est des gens du vin. Attends,
avec
tu vas pas faire
rouge,
de la bière,
rouge,
quand même. Denis. Mais est-ce que c'était un peu particulier, quand même, Didier, pour vous, de les voir face à votre équipe, hein, on rappelle, directeur du développement sportif de Clermont. Là vous, j'imagine que c'est peut-être arrivé déjà par le passé. Mais là, dans Top 14, quand même, c'était un truc particulier.
Non, c'était la première fois que j'étais dans une équipe qui jouait contre mes fils, mais bon, je sais pas, ça m'a pas trop perturbé. Bon, le résultat était un peu dur pour nous, mais non, j'ai bon, après évidemment toujours un peu inquiet pour pas que
c'est ce que j'allais te demander,
blesse,
Didier,
ouais,
mais... j'allais te demander, est-ce que le papa est-ce que parfois tu endosses pendant le match le costume de papa, ou il te reste tout le temps sur toi, c'est-à-dire que t'as la crainte pour tes deux enfants?
Ah, mais il y a toujours le petit côté d'inquiétude, évidemment. C'est ce qui fait que aussi le rugby, c'est quand même un sport assez incroyable. Mais je suis pas d'un naturel trop inquiet, donc je peux pas dire que je vive les matchs très très stressé. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Arthur a pas été épargné par ça, et bon, évidemment, on y pense toujours un peu.
Ouais. Didier, l'émotion devait être peut-être la semaine d'avant, non, à Montpellier,
là,
quand ils ont été associés à la charnière pour la première fois. Là, ça devait être quand même assez incroyable sous le sommet.
Ouais, Arthur, c'est bon, c'est presque un vieux routier du Top 14 maintenant, mais c'est vrai que c'était émouvant, parce que c'était la première des gars. En plus, c'est vraiment deux garçons avec des profils très différents. Arthur, très tôt, avait déjà la capacité à jouer chez les pros. Donc, à La Rochelle, à 19 ans, il jouait régulièrement avec les pros. Et bien, il lui a fallu beaucoup plus de temps. Il a fallu beaucoup travailler, et ça a été difficile pour lui. Donc, voilà, le fait de jouer ce match avec son frère, et puis J'ai eu Didier Lacroix au téléphone et après le match, et ils l'ont vraiment bien préparé. Je trouve qu'ils ont, ils ont mis beaucoup de, comment dire, d'attention en fait à le mettre dans les meilleures conditions, et c'est vrai que ça s'est très bien passé pour lui, et j'étais ravi pour ça pour lui.
Ouais.
Voilà.
Il gagne à Montpellier en plus, ouais.
J'ai champion de France, ouais. Ouais, bon, après ça, c'était génial, mais voilà, en tout cas, il était heureux d'être sur le terrain, Edgar, et puis c'est vrai qu'il y a une magnifique photo où ils s'embrassent à la fin du match, donc voilà.
Ça file une petite larme à l'œil de papa, ça, quand même, ou pas loin.
Ouais, ça touche, hein, évidemment.
Léo, je crois, une question à vous
ouais,
poser.
Ouais, tu disais, là, tu les avais en face ce week-end, et t'as quand même un peu l'émotion du papa qui, des fois, te reprend sur la peur, peut-être, pour eux. T'aurais pu travailler avec eux. Typiquement, on sait qu'Arthur, l'an dernier, a quitté La Rochelle. T'aurais aimé qu'il bosse avec toi à Clermont ?
Non, c'est trop compliqué. Je crois que autant lui que moi, et je pense Edgar aussi, on s'appelle très régulièrement, on est en contact très souvent dans la semaine, on échange beaucoup de choses sur nos carrières respectives, et puis oui, je crois que c'est trop compliqué de travailler avec ses enfants, quoi.
Ouais, de mettre l'affectif de côté, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est dur de mettre l'affectif de côté, c'est forcément une relation qui est jamais juste, parce que soit vis-à-vis des autres, on va se montrer plus dur avec ses fils pour justement montrer qu'on ne fait pas de préférence, ou alors on est plus touché par l'émotion, et donc à ce moment-là, on laisse passer plus de choses, donc voilà, c'est jamais juste, et je crois que ouais, c'est mais... en tout cas, moi, j'ai jamais entraîné mes fils, en fait.
Alors, tu les entraînes pas, en même temps, est-ce que tu leur donnais des conseils depuis
ouais, oui, Didier, ancien pilier, qui donne des conseils.
Non, mais toi, des DTN quand même, je veux dire, mais je veux dire, est-ce que vous partagez est-ce que tu donnes des conseils, est-ce que tu, même par rapport à la carrière, je veux dire, c'est aussi par rapport à l'évolution de leur carrière respective.
Oui, bien sûr. Bon, ils me demandent souvent mon avis. Après, on partage les choses, et c'est en sachant bien que c'est toujours eux qui prennent les décisions au bout du compte. Hein. Mais évidemment, je crois que c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un qui a un peu un regard avec un peu d'expérience et un peu de distance aussi. Donc, donc oui, on échange très souvent. Et voilà, on partage pas mal de choses sur le jeu et sur leur vie, quoi.
Didier, à l'époque, vous étiez en équipe de France, vous travailliez à l'époque avec Émile Ntamack et Marc Lièvremont. Émile, qui a aussi un fiston qui est plutôt pas mal, hein,
un deuxième qui arrive
là aussi. Ah ouais. Est-ce que vous compariez à l'époque la progression ? Ils étaient gamins à l'époque, vos fistons tous les deux. Est-ce que vous en parliez ?
Oui, on en parlait, mais plus comme des enfants, en fait. Ouais. Ils étaient jeunes, hein. À l'époque, en 2011, Arthur avait 14 ans, Romain devait avoir 12 ans, donc, et puis Edgar avait 10 ans, donc ils étaient vraiment, et Théo devait avoir 9 ans, donc voilà, c'était plutôt, ils nous faisaient marrer parce que dès qu'ils avaient 2 minutes, ils prenaient un ballon et ils jouaient. Enfin voilà, il y avait que ça qui les intéressait, en fait. On les amenait des fois voir l'équipe de France à l'entraînement, passer quelques jours à Marcoussis. Ils restaient 2 minutes au bord du terrain et puis après, ils partaient jouer avec leur ballon, quoi. Ça c'était.
Mais cette filiation à ce fait-là, ils sont conditionnés à ça. Il y a beaucoup de fils d'eux maintenant qui arrivent un peu partout, mais ils sont conditionnés, ils grandissent comme ça aussi.
Ben ouais, c'est assez curieux parce que moi, je les ai jamais forcés à jouer au rugby. Après, Arthur, à 3 ans, il a appris à utiliser le magnétoscope, parce qu'à l'époque, c'était la fin des magnétoscopes, mais il passait des heures à regarder des cassettes de rugby. Il a regardé des Disney, mais beaucoup plus tard, en fait. Au départ, il regardait que du rugby, quoi.
Non, mais
la filiation, elle est là.
Non, mais je trouve que la filiation. Non, d'abord, il faudrait donner un coup de chapeau au papa parce que c'est jamais facile d'avoir des enfants. Souvent, on a envie de les accompagner, d'être tout le temps. Le problème, c'est de les couver trop et puis de ne pas les laisser de la liberté qu'il faut pour qu'ils s'épanouissent eux-mêmes. Et c'est vrai que ce soit toi, Didier, que ce soit le papa d'Alain Penaud, le papa de Damien, que ce soit Émile, que je connais très bien, avec qui j'ai joué. Donc, Émile, il est très protecteur et en même temps, il s'est garder ses distances. C'est jamais facile une filiation, enfin, de trouver le bon équilibre, on va dire.
Ouais. Et surtout quand la comparaison en plus avec le père toujours. Hein,
oui, en plus. Ouais.
Alors ça, c'est plus leur difficulté à eux, mais je pense que nous aussi, on a vécu d'une autre façon aussi la relation avec notre père. Et moi, j'avais un père qui était assez présent et j'ai pas voulu faire tout à fait la même chose. Parce que des fois, c'est par moments, il était un peu envahissant. Pesant. Gentiment, ouais. C'était toujours avec beaucoup de bonnes intentions. Mais voilà, je crois que c'est important de leur laisser, en effet, leur espace. Parce que quand on est jeune au rugby, c'est les copains, c'est l'aventure. Il faut vivre des expériences. Si on a son père qui est derrière sans arrêt, bon, on les vit pas pleinement. Donc, moi, j'ai toujours essayé de laisser au maximum la place pour eux, pour qu'ils puissent prendre plaisir et puis vivre des choses incroyables.
Didier, vous allez pas tenter de les recruter à Clermont la saison prochaine, les deux fistons, non ? C'est pas dans les plans ?
Il veut pas.
Non, c'est pas. Moi. Si jamais ils viennent à Clermont, ça voudrait dire que j'aurais changé de job peut-être.
Merci Didier Retier, en tous les cas, c'était sympa de discuter avec vous.
Merci Didier.
Ces rapports avec vos fils donc, qui font le bonheur du Stade Toulousain et qui en plus, Arthur a déjà tâté du maillot bleu de l'équipe de France. Merci Didier Retier, à très bientôt.
À bientôt.
Voilà.
Merci à vous.
Ciao, ciao.
Les histoires de famille au Stade Toulousain, Wilfried, qui se sont enrichies d'un autre épisode avec l'histoire étonnante de deux joueuses du Stade qui sont aussi membres de l'équipe de France féminine, Laure Sansus et Pauline Bourdon, actuellement toutes les deux en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde de rugby. Elles évoluent toutes les deux au poste de demi de mêlée et se sont même remplacées lors du match victorieux. C'était samedi matin contre l'Afrique du Sud.
Et on a eu du changement côté français, la rentrée de Pauline Bourdon qui remplace Laure Sansus en tant que demi de mêlée.
Pauline Bourdon, l'une des cadres aussi de cette équipe. Pauline Bourdon, gros talent d'animation aussi pour cette joueuse qui évolue au Stade Toulousain.
Voilà, deux jeunes filles de grand talent qui, si elles évoluent rarement au même moment sur le terrain, passent en revanche beaucoup de temps en dehors, puisqu'elles sont compagnes dans la vie et vont même se marier dans quelques mois. On a découvert, Léo, cette histoire dans Midi Olympique cette semaine. Enfin, c'était sur le site plutôt, sur Rugby Rama. Moi, j'étais pas au courant. C'est vrai que c'est une histoire étonnante. Hein.
Ouais, c'était même dans le magazine, en fait. C'est le grand entretien du magazine d'octobre qu'on a effectivement repris aussi sur Rugby Rama. Alors, c'est vrai que pour lever un peu de voile sur les coulisses, on le savait forcément qu'elles étaient en couple. Et on leur a proposé, c'est ce qu'elles étaient d'accord pour pas au-delà de la situation d'être en couple, c'est être en concurrence et en couple.
Mais oui, c'est ça qui est étonnant.
Quoi. Ouais. C'est que si elles jouaient pas le même poste, à la limite l'histoire elle est un peu moins sympa. Mais là, c'est vrai qu'elles jouent le même poste et elles ont accepté de se confier très naturellement. D'ailleurs, il n'y a pas eu du tout de difficultés. Pour elles, c'était normal et il n'y avait aucun problème à en parler. Et c'est vrai que c'est la belle histoire de ce début de mondial féminin. Voilà, sur l'histoire de Pauline Bourdon et Laure Sansus.
Ça doit pas être facile quand même, Denis, parce qu'à la fois, elles sont coéquipières, elles sont compagnes et elles sont concurrentes sur le terrain.
Ennemies, tu veux dire.
Oui, quelque part, elles jouent tous les deux en 9, même si de temps en temps, Pauline peut passer en 10, mais quand il y en a une sur le terrain, l'autre ronge son frein sur le banc. Quoi, c'est...
Elles vont se marier, non ?
Ouais.
Ça ne durera pas. Non, le mec est positif. Mec... Non, mais évidemment...
C'était une blague, on précise.
Non, mais bien sûr, c'est une blague. Mais je veux dire, non, mais là où tu as raison, c'est que quand tu es un compétiteur ou compétitrice, comme elles le sont, que tu es au plus haut niveau, tu n'as pas d'amis. Surtout quand c'est l'équipe de France. Quand
t'es
l'équipe de France, t'as envie de jouer et tu tues ton mec qui est derrière. Non, mais c'est vrai que ça va être très compliqué. En même temps, ils ont dû trouver un arrangement pour pas, tu vois, en arriver à des ruptures, parce que tu peux vite arriver à te fâcher. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Je parle de manière générale. Hein,
quand t'es compétiteur,
voilà, c'est. Alors en foot, c'est encore plus exacerbé, mais en rugby, ça le devient.
Ouais. Ça le devient. La rivalité sur le terrain entre membres d'une même famille. D'autres ont connu ça en leur temps. C'est le cas, par exemple, des frères Lièvremont. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire. Ben, oui. Marc et Thomas, qui se sont même affrontés en finale du championnat de France. C'était en 1998. Marc évoluait à l'époque au Stade Français. Il venait de quitter l'USAP et son jeune frère était tout simplement le capitaine de l'USAP. Rappelez-vous, c'était en 98. Moscato qui soulève le bouclier de Brennus, on s'en souvient forcément.
Avec Lièvremont, formidable Thomas Lièvremont, qui a fait 40 mètres, porteur du ballon, mise au sol, la mêlée ouverte devant les poteaux du Stade Français. La mêlée ouverte est à l'avantage des Parisiens qui collectivement progressent. Attention, le côté fermé, remise à l'intérieur pour
Marc Lièvremont. Ils s'enchaînent bien, ils sont à un mètre de la ligne les Parisiens en ce moment.
Reçu,
essai. Contre-attaque de Dominici. Dominici pour Mitton en position déviée. Le centre du Stade Français retourné comme une crêpe par Thomas Lièvremont, le capitaine de l'USAP, qui remet son équipe en jeu.
Thomas Lièvremont.
C'est un jour sans, malgré toujours ces charges d'orgueil du capitaine catalan, mais c'est un jour sans pour l'USAP. L'essai entre les poteaux qui va mettre du baume au cœur à tous les Catalans, dont le père, la mère, la famille Lièvremont.
Admirative, Bernard Lièvremont.
La joie des Parisiens et la détresse des Catalans. La joie de Marc et sans doute la détresse de Thomas Lièvremont. Regardez, Majoral et Marc Lièvremont. Marc Lièvremont qui était le témoin du mariage de Majoral. Ils étaient tous les deux les flanqueurs de l'USAP l'an passé. Voilà Marc Lièvremont le vainqueur. Il est presque gêné de cette victoire face à ses copains, ceux avec lesquels il a grandi.
Voilà, cette finale 1998, on s'en souvient forcément, Denis, et oui. Je pense qu'il y en a un autre qui s'en souvient encore mieux, c'est Thomas Lièvremont, justement, qui est avec nous en direct. Bonjour Thomas.
Bonjour messieurs.
Bon,
Thomas.
C'était il y a 24 ans, mais on a l'impression que c'était hier. Quel souvenir tu gardes justement de cette finale, de l'affrontement avec ton frère qui venait de quitter l'USAP? C'était quand même un moment très particulier pour toute la famille. D'ailleurs, toute la famille était présente ce jour-là au Stade de France, hein.
Il y avait beaucoup de monde, effectivement. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours respecté le droit d'aînesse dans la famille Lièvremont. Marc étant l'aîné, on a tout fait pour le laisser gagner.
Bien joué.
Ils sont bien élevés. Bien
Ils
éduqués.
Sont bien élevés, bah oui, c'est ça, là, le respect de l'aîné. L'histoire des deux frères, amis et ennemis sur le terrain ce jour-là, avait fait les gros titres des journaux, évidemment. Ça avait été une semaine un peu lourde à vivre, non, Thomas, l'avant-match?
Bah, disons qu'on était restés chacun dans notre bulle. On reviendra peut-être sur ce match-là, mais je tiens à préciser quand même qu'en 2002, avec le Biarritz Olympique, je joue contre mon frère Mathieu, qui a la finale aussi au Stade de France de top 14 contre Agen. Donc, pour le match du Stade Français USAP, c'est vrai qu'on s'était protégé, on s'était mis chacun dans notre bulle et on voulait pas trop se dévoiler. Je savais que c'était très compliqué pour Marc parce qu'il avait quitté l'USAP la saison précédente et que on a entendu dans le reportage son amitié avec Gérard Majoral, mais avec tant d'autres. Lui, il a porté bien plus longtemps que moi le maillot de l'USAP et de perdre pour lui ce jour-là aurait été quand même un mauvais coup du sort. Bon, on a tout fait pour gagner, mais le Stade Français était bien plus fort ce jour-là.
Alors il y a eu cet affrontement, Thomas, mais il y a eu également des matchs joués ensemble et au plus haut niveau, puisque vous avez joué ensemble avec le maillot de l'équipe de France. Ça, j'imagine que c'est des souvenirs encore plus forts. Écouter la Marseillaise avec son frangin à côté, ça doit être un grand moment, ça aussi, non?
Oui, alors sur le terrain, bien évidemment, ces moments-là restent gravés à jamais. Il y a aussi tout l'à côté, le temps qu'on partage dans une chambre, dans une tournée, dans un bus. C'est vrai qu'on a eu la chance de faire une partie de la Coupe du Monde 99. On a gagné le Grand Chelem en 98 et on a fait des tournées ensemble. Donc forcément que ce sont des souvenirs impérissables. Et on parlait de la complicité de frères, mais dans des moments importants comme ça, des moments de stress, De remise en question, de doute, c'est toujours plus facile d'être accompagné par un frère parce qu'on sait qu'un frère ne vous trahira pas, n'ira pas trop loin, ne sera pas intrusif et en même temps vous donnera les bons conseils. Et c'est vrai que ces moments de complicité là, ils sont encore présents plus de 20 ans après.
Ouais, Denis.
Ah ben j'ai une anecdote formidable parce que quand ils jouent ensemble, Lièvremont, il n'y a pas de problème. Quand ils jouent l'un contre l'autre, j'ai joué à Copacabana en 2014. On fait un match de rugby à toucher, c'est pas à plaquer, à toucher. Hein. Alors de la plage de Copacabana à l'hôtel, il doit y avoir 1,5 km. Je n'ai jamais vu s'insulter autant. J'ai dit, c'est des branques. C'est des branques. Non, mais on était quand même. C'était les vacances, c'était pas un match. Mais j'ai dit, mais vous êtes fous. Hein. Mais alors, et en même temps, je rigolais. Ben, j'ai dit, mais c'est quand même, c'est beau. Enfin, c'est, voilà. Donc, c'est deux vrais compétiteurs, mais alors, quand ils sont ennemis, ils sont vraiment ennemis.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Lièvremont ?
Non, c'est vrai, mais on est très joueurs dans la famille. On prend des boules de pétanque à main, c'est la même chose. Une partie de diable, c'est pareil.
Ça peut être dangereux quand même.
Oui, il y a eu, vous en rigolez, mais il y a eu enfant, j'ai deux boules d'un frère sur l'autre.
Oui, on ne rappellera pas le nom de la famille.
Non, dans la famille Lièvremont, mais on ne dit pas qui sur qui.
Alors, dans la famille Lafont, il y a eu aussi, donc c'est pour ça que je te dis ça.
Ouais. D'accord, dans la famille Lièvremont également.
Voilà, bon, ben
oui, Wilfried.
Juste une question, Thomas, parce qu'on a entendu Hugo Mola parler de tous ses frères qu'il y a au Stade Toulousain, notamment ces dernières années, et lui voyait que du positif. Est-ce que c'est une vraie force pour une équipe comme Toulouse d'avoir des Ntamack, des Rothia, comme ils ont eu des Arnold, des Marchands, ça amène quelque chose vraiment, on disait, on n'est jamais trahi par son frère sur le terrain. Est-ce que il y a quelque chose en plus, une flamme en plus, alors s'il y a beaucoup de frangins?
Oui, d'abord parce que effectivement, vous ferez un effort toujours, même si au rugby aujourd'hui on ne triche pas, mais vous ferez toujours l'effort supplémentaire pour aller soutenir votre frère dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis ça crée quand même un état d'esprit un peu particulier, une émulation, un capital sympathie quand vous avez les deux Arnold ou les deux Marchands sur le terrain. Je parle des avants parce que bon, les trois quarts ça compte quand même pas trop dans le rugby, mais mais quand vous avez
parfois ça t'aide.
Ouais, ça aide, c'est vrai. Et puis j'ai tellement d'affection pour la famille Rothier et Tamac que je ne peux pas dire des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans le combat, dans la solidarité, ça crée quand même une belle émulation. Et puis, honnêtement, ces frangins dont vous parlez, alors je ne suis pas proche de la famille Arnold, mais on sent que c'est des gars bien, quoi. C'est des garçons bien élevés, c'est des belles personnes, en plus des bons joueurs. Donc forcément, lorsque vous coachez ce genre de famille, vous ne pouvez en dire que du bien.
Thomas, il y a eu donc dans la famille Lièvremont Marc et Thomas, il y a aussi Mathieu dont tu as parlé et que tu as affronté dans une autre finale, mais il n'y a pas que ça. Je crois que vous êtes quoi, 7 frères et une sœur, et vous avez tous tâté du ballon ovale. Et à la différence de Ntamack, de Penaud, de Rothier, ton papa n'était pas un rugbyman, il était plutôt footeux, je crois. Hein.
C'est ça. Mon père était franc-comtois, donc il était footballeur. Il a découvert le rugby à 33 ans. Il était militaire de carrière, il a découvert le rugby à 33 ans. Et le jour où il a goûté, il a dit « Mais comment j'ai pas connu ça plus tôt ?» Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'il nous a mis au rugby, parce qu'il avait une culture, de football. Nous, on a eu la chance aussi, en grandissant à Argelès-sur-Mer, notre ville d'adoption, que le club de rugby payait les licences aux abonnés. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu la chance de faire de rugby, parce que c'était plus accessible pour une famille nombreuse.
Même la frangine a joué au rugby.
Alors la frangine a rejeté le rugby dans son enfance, et puis y est venue à l'adolescence. Elle a même eu en 2005, puisqu'il y a eu une finale Biarritz Stade Français en 2005, en ouverture au Stade de France, ma sœur jouait et a gagné le titre de championne de France également, même si elle n'a jamais été internationale. Elle s'est mise au rugby plus tard.
Et moi j'allais aussi station, tu sais, le rugby sur la neige, chaque année. Mais j'allais pour RMC d'ailleurs. Il y avait la famille, toute la famille, les fils. Non, mais c'était magnifique à voir, et je crois qu'ils l'ont gagné plusieurs fois, non, c'est ça, Thomas?
Ils étaient imprenables.
Oui, bon, c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'on a, on a réussi à le gagner plusieurs fois. Oui.
Thomas, il y a eu une autre trahison quand même de la part de ton frère Marc. Lorsqu'il est appelé en tant que sélectionneur, je crois qu'il vient juste de te faire venir, toi et Mathieu, à Dax pour renforcer le staff, donc vous êtes tous ensemble. Et puis là, il est appelé en équipe de France. Je crois qu'il vous a demandé quand même la permission de partir chez les Bleus, c'est ça?
Oui, c'est le côté droit et honnête de Marc. C'est vrai que l'histoire avec le Biarritz Olympique, c'est pas forcément bien fini parce que Marc est parti, a dû arrêter sur une blessure et il y a eu un petit goût d'inachevé. On avait envie encore de collaborer ensemble. C'est vrai qu'avec Mathieu, on aurait pu aussi jouer, passer plus de temps ensemble. On s'est dit, on va se retrouver sous l'égide de Marc et jouer, partager encore des moments forts avec Mathieu. Et quelques mois après, même quelques semaines après sa nomination, notre arrivée à Dax, il est appelé par Pierre Camus pour rejoindre le poste de sélectionneur. Et effectivement, il nous a consultés. Alors, autant vous dire que... Il y avait de la frustration de notre côté, mais une telle joie pour lui. Et puis, ce genre d'occasion ne se présente pas deux fois. Donc, de mon côté, il a eu un grand feu vert. Et je pense que s'il me l'a demandé aussi, c'est parce qu'il savait que je ne pouvais pas le garder près de moi.
Évidemment. Voilà,
et Thomas, juste, tu regardes ça d'un autre œil quand tu vois des frangins comme ça. On pense qu'il y a les frères Barrett qui sont trois All Blacks. Il y a eu les frères Twilagi. Mmh. Est-ce qu'après avoir vécu tout ça, on regarde ça d'un autre œil sur les terrains?
Disons qu'on on comprend un peu plus vite tous les automatismes, tous les gestes, tous les réflexes que peuvent trouver les joueurs sur le terrain. C'est vrai que nous, en tant que troisième ligne, on était en confrontation directe, mais je pense aux frères Marchand, notamment au talon, où ça doit être un peu plus complexe à vivre, en opposition. Mais lorsqu'on joue, c'est vrai que voir des Tao Fefenua, des Barrettes et j'en passe, ça, on a toujours un regard attendri sur leur performance et surtout leur comportement.
Merci Thomas d'être venu nous raconter l'histoire de la famille Lièvremont avec le ballon.
L'histoire
ovale,
des boules de pétanque. Quoi.
L'histoire des boules de pétanque et la bagarre à Copacabana, c'est quand même ça, on retient.
Ah ouais, il n'y a pas eu bagarre, il y a eu des mots.
Je ne vous raconterai pas ce qui s'est dit. Hein.
C'est qui le plus costaud des deux?
Parce que là, ce qui s'est dit, c'est quand même assez fort. Mais le plus costaud, bon, ils sont tous les deux.
Ah ouais,
c'est deux bourrins. Non, mais c'est deux bourrins. Donc si tu veux, deux bourrins qui s'affrontent, je ne sais pas qui c'est qui va gagner. Ah, je suis pas sûr,
parce que Marc, c'est moi le plus costaud. Oui. C'est moi le plus costaud, je vais vous le dire. Et Marc est mon aîné, donc je ne pourrais pas lui faire de mal.
Oui. Non, mais Marc, il ne pas jouer à la pétanque avec vous.
Alors Marc est moins costaud que toi, mais c'est un drôle de bourrin quand même.
Mais il est beaucoup plus con.
Ouais, c'est sûr.
Merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir de discuter
plaisir.
Avec toi. À très bientôt.
Salut, à bientôt, merci.
Et donc l'un des représentants de la fratrie.
On a pas dit, j'ai fait un tournoi à 7 avec l'équipe de France avec Thomas.
Ouais.
C'est marrant. Moi, j'étais en fin de carrière, lui en début, et à Punta del Este avec l'équipe de France.
Ah, bah oui, ça va, ça. Les voyages forment la jeunesse.
Dommage, je suis parti parce qu'en plus, on aurait pu gagner le tournoi.
Ouais,
c'est vrai.
Dans les frangins, fallait ceux que j'ai cités, les frères Twilagi, faut pas les prendre.
L'histoire des frères Twilagi, c'est encore.
Il y a 5 joueurs professionnels.
Il y a un roman à faire.
Il y en a même, je crois, un des frères qui a été élevé comme une fille.
Ouais, complètement.
Dans la tradition.
La tradition, le cinquième, le dernier, non, c'est ça, Léo, je crois. C'est le dernier.
Ouais, c'est le dernier, les garçons. Il faut une fille. C'est une société assez matriarcale, pour le coup. Et il faut une fille. Et quand il n'y a pas une fille, il y en a un qui est élevé comme une fille. Je crois que ça s'appelle un fa affiné, exactement.
Voilà. Ouais, je suis pas tellement d'accord.
Il est encore plus costaud que ses frères. Ouais. Mais par contre, il était en mini-jupe. Et,
le 8 était impressionnant. Le 8 qui joue à Perpignan. Là.
Ouais, Henri.
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 Ah oui, toujours.
Il est toujours. Hein, on a vu des photos. Ouais. Il fait encore le traiteur. Là,
et il y a son fils qui arrive.
Il fait combien 160 barres, non?
Il y a son fils qui arrive à Perpignan. C'est un animal aussi.
Ouais, qui a joué à La Rochelle.
Il a joué son premier match à La Rochelle. Ouais. Il a joué son premier match Pau-Solo, je crois, Twilagi, et il est pas drôle. Mais au casse-cou, il doit pas être drôle.
150 kilos, pardon.
150, ouais.
Bon, ben voilà ces belles histoires qu'on voulait vous raconter aujourd'hui.
C'est sympa,
les poteaux, ouais, c'est sympa de discuter avec vous. T'as pas eu de frère aussi? T'as pas eu de frère?
Si, des frères, ils jouent au rugby à Cahors, mais pas plus. Ils sont pas allés.
Ils ont pas eu loin, mais. Le talent de Denis, quoi.
Voilà. J'ai oublié de parler du papa de Romain aussi, qui a une vraie filiation avec son fils Alexandre, que j'ai eu avec les Babas.
Qui a été très bon à Toulouse ce week-end.
Et qui est métamorphosé. Bon, il est passé par les équipes de France de jeunes. Mais là, il a peut-être un gros vrai rôle à jouer.
Son père prend sa défense. Il a mis un taquet à Urios.
Dans la filiation, je trouve que leur relation est géniale. Et voilà, je voulais le dire. J'ai oublié de le dire tout à l'heure.
Merci les garçons. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.
Ciao,
d'autres histoires entre les poteaux tous les lundis. Votre podcast consacré au rugby. Bonne semaine. Ciao, ciao.